France Culture.
C'était sans doute le match de tennis le plus insolite de toute l'histoire de ce sport. Hier soir, la championne américaine Billie Jean King a rencontré un vétéran de ce sport qui lui aussi avait de son temps remporté le tournoi de Wimbledon. Bobby Riggs, 55 ans, avait tout simplement lancé un défi à l'actuelle reine du tennis mondial.
90 millions de personnes ont regardé le match dans le monde entier. C'est un chiffre colossal. Le tennis ne fait jamais autant d'audience. Et il faut se rappeler que nous étions en 1973.
Billie Jean King est le match de tennis du siècle. Un documentaire de Coralie Martin, réalisé par Nathalie Salle.
Ce match a révolutionné l'univers du tennis. Au lendemain de la rencontre, les courts étaient pris d'assaut. Le tennis a connu un essor fulgurant.
Premier épisode, Virginia Slims, la révolution en marche.
Bobby Riggs, 55 ans, vainqueur à Wimbledon. Mais c'était en 1939, de l'autre côté, Billie Jean King, 29 ans. Elle avait pour elle sa jeunesse, mais aussi sa classe et l'expérience des matchs décisifs.
C'était vraiment incroyable, incroyable. Je crois que je dois avoir des photos, là. Et il y avait beaucoup de monde. Il y avait 23 000 personnes, quelque chose comme ça, dans le stade. C'était la première fois qu'on se voyait, nous, dans un grand stade comme ça. Hein. C'était magnifique.
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la gagnante de l'US Open Simple Dame 1972.
J'ai toujours aimé le sport, depuis ma plus tendre enfance, et je le dois en grande partie à mon père, qui était pompier. Ma mère était femme au foyer, mais plus tard, elle a commencé à travailler.
Billie Jean King.
J'avais aussi un petit frère, il a joué en Ligue majeure de baseball pendant 12 ans. Mon père croyait en moi, et mon frère m'a beaucoup aidé également, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans ma vie sportive. Nous avons d'abord joué au basket ensemble. À la fin de l'école primaire, Susan Williams, mon amie, m'a demandé si je voulais jouer au tennis. Je lui ai répondu, « C'est quoi le tennis ?» Elle m'a dit, « Tu plaisantes ?» Je lui ai répondu, « Non, j'en ai aucune idée, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se joue ?» Elle m'a dit, « Tu cours, tu sautes et tu frappes une balle. » Je lui ai répondu, « Ce sont trois choses que j'adore. » À l'époque, il y avait des cours gratuits dans les parcs. C'était très répandu aux États-Unis. 70% du tennis aux États-Unis se joue dans des parcs publics et non dans des clubs, comme la plupart des gens le pensent. C'était donc une occasion en or. Clyde Walker était notre entraîneur. Je l'adorais, c'était un type formidable. Après l'avoir rencontré, la deuxième fois que j'ai touché une raquette, j'ai su que je voulais être numéro un mondial. Je l'ai dit à ma mère, à mon père, à mon frère, qui m'ont répondu, Mary! Pourtant, j'étais sérieuse. C'était l'objectif que je m'étais fixé. À 12 ans, j'ai eu une révélation. Alors que j'étais au club de tennis de Los Angeles, je me suis rendu compte que tout le monde portait des vêtements blancs, jouait avec des balles blanches, et que tous ceux que je voyais jouer étaient blancs. Je me suis demandé où étaient les autres. J'ai commencé à me dire que si je devenais numéro un, je pourrais peut-être rendre le monde meilleur.
Billie Jean King est au fond du court et au service. Hier après-midi à Wimbledon, elle a éliminé 3-6, 6-3, 6-2. Cette Australienne au ravissant chapeau qui s'appelle Karine Crunch.
Wimbledon, juillet 1970.
Françoise Dur, elle, s'est qualifiée facilement, 6-0, 6-4, après avoir aligné en début de partie 9 jeux en sa faveur. Billie Jean King, la prochaine adversaire de Françoise Dur, est l'une des meilleures joueuses du monde. Elle a déjà remporté Wimbledon trois fois en 66, 67 et 68.
Je suis Françoise Dur, je suis une ancienne championne de tennis qui a gagné Roland-Garros en 67. J'ai été élevée par une famille qui joue au tennis puisque mes grands-parents avaient un cours de tennis en Algérie. Moi d'abord, je ne pouvais pas aller sur le court quand j'étais toute petite. On n'a pas le droit d'aller sur le court. Bon, c'était un peu partout pareil. Mais petit à petit, j'ai commencé à jouer bien au tennis et j'ai quand même gagné les juniors au club de Lawn Tennis Club Oranais qui était très beau. C'était un très beau club. Il y avait quand même à peu près 12 cours. Hein. Bon. Et puis finalement, j'ai commencé à bien jouer. J'avais 15-16 ans. Et maman me dit, tu es invitée pour jouer Monte Carlo. D'où j'ai joué Monte Carlo, c'était en 62 pour Pâques. Et maman me téléphone, me dit, la situation est complètement mauvaise en Algérie, il faut que tu restes en France. Et j'ai fini mon bac à Paris. Et après ça, j'ai dit, je vais prendre une année sabbatique avant d'aller à l'université. Il y avait des tournois un peu partout. Et j'ai fait toute une tournée. Ça, c'était une drôle de tournée parce que j'ai été en Afrique du Sud. Après ça, j'étais en Australie. Et après ça, j'ai fait les Caraïbes, d'où j'avais un billet d'avion qui était aussi grand que ça.
Le sport comme chaque dimanche soir, journée historique aujourd'hui pour le tennis français. Paul Laporte, ça se passait à Roland-Garros.
Juin 1967.
En effet, Françoise Dure a remporté les championnats internationaux de France sur terre battue et elle est la première française à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve et ce depuis 1948. Elle a remporté aux dépens de l'Australienne Leslie Turner une victoire indiscutable mais acquise grâce à un courage et une ténacité de tous les instants.
Eh bien, les victoires les plus marquantes, c'est quand même, étant française, de gagner à Roland-Garros. J'ai battu en finale Leslie Turner, qui avait gagné l'année avant, ou qui était toujours numéro 2 après Margaret Court. J'ai gagné le deuxième set. Et au troisième set, je suis menée 4-2, 15-30. Et je me rappelle ce que m'avait dit mon coach. Il m'avait dit, il faut se battre jusqu'à la dernière balle. Et j'ai fini par gagner 6-4 au troisième set. Tous ces tournois que j'ai joués, comme ça, c'était des tournois amateurs.
Sur les courtes du Country Club Aixois, les vedettes se succèdent à un rythme qui doit satisfaire les amateurs les plus exigeants.
Rencontre de tennis à Aix en 1968.
Ainsi, Françoise Dure, dont nous avons pu filmer l'entraînement en vue de sa rencontre demain contre Billie Jean King, sera l'attraction de ce match États-Unis-Europe au cours duquel l'américaine Rosemary Casals sera opposée de son côté à Anne Jones, Grande-Bretagne. La finale mettant aux prises les deux gagnantes de ces rencontres préliminaires sera un grand moment du tennis mondial que les fervents de la raquette ne voudront pas manquer. Pas plus que le sensationnel double où l'anglaise et notre française en découdront avec les deux américaines, toujours demain après-midi à Aix.
Vous savez, il n'y a pas eu de professionnels avant nous. Avant Billy et moi, il n'y a pas eu de professionnels du tout. On était tous amateurs. Quand j'ai gagné Roland-Garros, j'ai même pas eu droit à une coupe, j'ai eu droit à un bouquet de fleurs. Vous voyez ?
Vous gagnez très peu d'argent au tennis.
On gagnait très peu d'argent.
Pour vous, c'était un financement personnel, en fait.
Absolument. C'est maman qui me dit, ça, tu pourras le faire peut-être, etc.
Tennis, Françoise Dure ne réalisera pas son rêve.
Elle avait espéré jouer la finale du simple dames sur le fameux gazon de Wimbledon. Pour cela, il lui fallait gagner aujourd'hui en demi-finale contre l'américaine Billie Jean King.
Juillet 1970.
Mais l'adversaire était trop forte pour elle. Françoise Dure s'est inclinée en 2-7, 6-3, 7-5.
Je voulais que le tennis se professionnalise davantage. J'avais assisté à toutes sortes d'événements sportifs professionnels toute ma jeunesse. Et je n'arrivais pas à croire que nous, les meilleures joueuses du monde, ne parvenions pas à en vivre ni à avoir des gains, des prize money. Mais c'était pourtant le cas. Nous savions que nous agissions pour les générations futures. Si je ne me trompe pas, vous avez parlé à Françoise Dure, qui a joué un rôle très important dans le processus.
Avec Billy, on voyait les garçons gagner, mettons, $1,000 et nous, 250 peut-être. Même pas, enfin, je sais pas, je dis comme ça, mais c'était vraiment, la proportion était vraiment invraisemblable. Invraisemblable. Et c'est pour ça qu'on s'est battu. Et c'est un peu de fil en aiguille que Billy a parlé avec Gladys Hellman. Et c'est comme ça qu'elle a dit, il faut faire quelque chose.
Nous avons traversé des moments très difficiles. Mais le tennis professionnel féminin a vu le jour le 23 septembre 1970, lorsque 9 d'entre nous, les Original Nine, les 9 premières, avons signé un contrat de $1 avec Gladys Hellman, éditrice du World Tennis Magazine, qui s'est ensuite mise en quête d'un sponsor.
Ce que vous êtes en train de faire est une erreur monumentale.
Billie Jean King au cinéma, dans la bataille des sexes.
Une alternative à nous proposer ?
Au nom de la USLTA, je viens vous demander de ne rien faire que vous risqueriez de regretter.
Alors, qu'est-ce que vous offrez ?
Je vous offre de vous maintenir au sein de l'Association américaine de tennis.
Quoi ? Vous nous virez ?
Si vous menez à bien ce projet, vous serez nos rivales. On n'a pas le choix.
Hé, les filles, écoutez. J'ai conscience de ce que vous risquez, pour la bonne raison que je risque la même chose. Non, pas plus. Pareil. on met toute notre carrière en jeu. Alors je veux vous remercier pour votre bravoure. Et d'en avoir.
And your balls.
And we had one tournament. Donc il y a eu ce tournoi à Houston, au Texas, où tout a changé. Et nous avons été suspendus du circuit officiel. J'ai dit à mon ex-mari, il faut qu'on organise une compétition, un circuit, plusieurs tournois dans l'année. Gladys s'est mise à l'œuvre et nous lui avons emboîté le pas. Nous sommes partis à la recherche de personnes susceptibles de promouvoir les tournois. Gladys a obtenu le soutien de Philip Morris. Virginia Slims était une marque de cigarettes pour femmes qui venait de voir le jour. Moi, je déteste fumer, j'ai dit à Gladys. Je ne fume pas. Nous ne fumons pas. Les athlètes ne fument pas et ne boivent pas. Elle m'a répondu, j'ai un contrat d'$1 sur toi. Du coup, je lui ai dit, d'accord, tu peux compter sur moi. Sans ça, le tennis féminin professionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui n'aurait jamais existé. Nous nous sommes littéralement tués à la tâche pour promouvoir ce sport. Nous passions à la radio à 6 heures du matin, à la télévision, nous figurions dans les magazines, dans les journaux, nous donnions des conférences de presse, ça durait des heures, nous faisions la promotion, nous allions dans la rue, nous arrêtions les voitures et nous leur donnions des billets pour nos tournois. C'était très différent d'aujourd'hui, c'est sûr. Je suis bien contente que ce soit différent. C'est pour cela que nous nous battions, pour améliorer la situation pour les générations futures.
Là, vous voyez, par exemple, on a fait une publicité pour Wheeler ou la limonade. Vous voyez, là, il y avait tout le monde. Je suis là. Il y a Martina.
À quel moment vous êtes partie aux États-Unis et que vous avez commencé à jouer dans le circuit professionnel?
Eh bien, c'est quand les Virginia Slim ont commencé à faire des tournois tout au long des États-Unis. D'où j'ai vécu presque 2 ans à New York. Je me dis, parce que moi, je suis au milieu, là, si je vais aller à Paris, c'est beaucoup plus court que d'être à Los Angeles ou quelque part par là. Et comme j'étais toute seule, c'est comme ça que j'ai acheté mon chien, que je l'ai appelé Top Spin et qui m'a tenu compagnie quand j'étais à New York.
Ah oui. Ce sont les robes que vous portiez pendant les tournois.
Les tournois de Virginia Slim, voilà. Et c'était Monsieur Teddy Tinling qui habitait Londres et qui faisait tout ça. On allait le voir à Wimbledon juste après Roland pour aller voir qu'est-ce qu'il pouvait nous faire. Et il nous en faisait à peu près 4 ou 5 par an quand même. Il nous avait fait un truc pour avoir le dos nu. J'ai joué à Wimbledon comme ça, j'avais ma veste. Et puis quand j'ai ôté ça, tous les gens ont été un peu sidérés de voir que j'avais le dos qui était dénudé. Mais à Wimbledon, il fallait jouer la plupart du temps avec beaucoup de blanc. Elle avait un liseré rose ou un liseré bleu ou un liseré vert. Ou elle pouvait avoir un liseré, mais c'était tout ce qu'on pouvait avoir. Mais même à l'époque actuelle, on ne peut pas jouer à Wimbledon sans être vraiment blanc. On jouait toujours avec 2 balles dans la main. Il nous avait fait une culotte comme ça.
Une culotte en dentelle.
Une culotte en dentelle.
Oui, ouais. Parce que les robes, elles sont quand même très courtes. Là, ouais, vous aviez quelque chose en dessous quand même.
Voilà, on pouvait mettre la balle dedans. C'était bien fait, hein. Mais d'après ce que j'ai compris, Monsieur Teddy Tinling, il s'était un peu occupé de tenue de Suzanne Lenglet. Et à chaque fois, il mettait le petit insigne de Virginia Slim. C'est une petite madame qui a une raquette dans la main avec je pense que c'est encore une cigarette. Et en bas, des petites chaussures bien faites.
Et vous les conservez précieusement, ces robes, elles étaient...
Je les ai pas vues depuis une éternité, parce que bon, je crois pas que je pourrais rentrer dedans maintenant, à vous dire franchement. Voilà, là, c'est quand on était au Japon, par exemple, voyez. Là, me voilà, il y a Billie Jean, il y a les toutes premières qui étaient là pendant la Virginia Slim, voyez. C'était toutes, voilà, ben voilà Monsieur Teddy Tinling, c'est lui Monsieur Teddy Tinling qui faisait toutes les robes. Là, c'est Nancy Richie. Là, c'est Gladys Hellman, là, c'est Rosie Casals, là, c'est Kerry Melville, là, c'est Judy Dalton, Là, c'est Valérie Ziegenfuss. Après ça, il y a Billie Jean. Voilà.
Et donc ça, c'était le groupe qui a fondé le groupe
original de Neuf. Voilà.
Les Original Nine.
Oui.
Parmi les Original Nine, c'était que des Américaines ou il y avait aussi...
Il y avait deux Australiennes. Il y avait Judy Dalton et Kerry Melville. Vous voyez, là, il y a Billie, regardez. Et moi, de l'autre côté. Elle m'a dit, oh ben maintenant qu'on est passé pro, il va falloir faire quelque chose. Et on voyait bien que les garçons gagnaient beaucoup plus que nous. Et moi, je l'ai suivi tout le temps parce que je trouve que le tennis féminin était vraiment pas bien considéré.
C'était une période très difficile sur le plan émotionnel. Mais nous avons gardé le cap. Et je voulais que nous formions une association. Les hommes ont créé l'ATP en 1972, puis en 1973, 4 jours avant Wimbledon, nous avons formé la WTA, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Elle m'a dit, bon ben écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va se réunir un jour à Wimbledon, parce que c'est là où il y a le plus de joueurs et de joueuses. Le dimanche, on joue jamais à Wimbledon. Elle a dit, il faut venir dans l'hôtel où on était, le Gloucester Hotel, parce que quand les Virginia Slim ont été créés, il y avait deux parties aussi. Il y avait ceux qui étaient pour les Virginia Slim et ceux qui voulaient rester comme ils étaient. Il y avait par exemple Virginia Wade, il y avait Margaret Court et tout ça qui voulaient rester dans leur domaine. Et nous qui voulons qu'on passe pro comme les garçons. Et c'est comme ça qu'on s'est réunis le dimanche et que j'avais ma copine, Betty Stove, qui est une Hollandaise, qui était très grande. Et alors, on l'a mis devant la porte et on lui a dit, tu laisses sortir personne maintenant, jusqu'à temps qu'on crée la WTA. Et c'est comme ça qu'on a créé la WTA.
C'était un travail considérable, car il a fallu 2 ans pour que tout le monde se mette d'accord. Je voulais fédérer les meilleures joueuses, c'était essentiel. Nous devions être unis, surtout les meilleures joueuses. Nous devions rester soudés contre vents et marées si nous voulions que cela fonctionne, si nous voulions créer un tournoi professionnel. Nous y sommes parvenus et tout le monde a contribué à cet effort. Rosie Casals a joué un rôle essentiel, ainsi que Anne, ma partenaire de double, et Frankie, Françoise.
Comme Billie me connaissait bien, elle m'a dit « tu vas être la secrétaire ». Et chaque fois qu'on avait quelque chose qui n'allait pas, elle me dit « alors envoie des messages ou dis à tout le monde qu'on va avoir un rendez-vous ». Et alors on se retrouvait dans les hôtels quelquefois, le soir tard, pour dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Ah voilà mon chien. Parce que je voyageais avec mon chien quand j'étais aux États-Unis. Et alors, mon chien restait toujours dans le vestiaire. Et un jour, je l'ai vu, il prenait ma raquette comme ça, dans son bec. Et du coup, je lui ai appris à amener ma raquette sur le cou quand je joue en double.
Seulement en double.
En double, parce que le double, c'était plus relax quand même. Hein. Ouais, il était tout petit.
Ah oui, on a une photo là.
Ouais. Et je n'avais pas de lift dans mon jeu, d'où je l'avais appelé Top Spin. À cause de ça, Top Spin, c'est du lift en anglais, et d'où je l'avais appelé de ce nom-là, Top Spin. Bum, bum, bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum.
Hello?
Eureka!
Erika!
Hello?
Eureka!
Erika, Billie
Jean! Who's this?
Qui est-ce?
C'est Bobby Riggs.
Bobby?
Écoutez, j'ai une idée géniale. Vous et moi, Billie Jean. En 3-7, en 5-7, vous choisissez.
Vous êtes sous ou quoi?
Bien sûr que non! Que dites-vous de ça? L'homme contre la femme. Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel. Vous êtes toujours féministe?
Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme.
Excellente définition. Et je suis un champion de tennis qui se trouve être un mâle.
Qui peut battre n'importe quelle femme sur la planète. Pensez à la publicité, pensez à l'argent.
Non.
$35,000.
Je suis pas intéressée, Bobby. Bonne nuit.
Ne raccrochez pas.
Et pour votre gouverne, je me rase les jambes. Je savais tout de Bobby parce que je suis férue d'histoire. C'était l'un de mes héros. car il avait remporté le grand chelem à Wimbledon. Il avait tout raflé. C'était un grand joueur, le numéro un mondial. Il adorait parier. Tous les matins, il se levait pour parier. Il m'a poursuivi pendant plusieurs années. Il me disait, il faut que tu joues contre moi. On va gagner beaucoup d'argent et passer à la télé. Je lui répondais, non merci Bobby. Car je ne pensais pas que cela aurait été bénéfique pour le tennis féminin ni pour le sport, bien au contraire. C'était pas une bonne idée. D'une part, nous n'avons jamais dit que nous étions meilleurs que les hommes, et d'autre part, nous ne l'étions pas, c'était ridicule. Suite à cela, Bobby est allé trouver Chris Evert, Nancy Ritchie et toutes sortes de joueuses pour leur demander si elles accepteraient de jouer contre lui, mais elles ont toutes refusé.
Après ça, du coup, il a dit, ben, je vais demander à Margaret Court. En plus, vous voyez ce qu'il a fait lui aussi, c'était la fête des mères. C'était le 13 mai 1973.
Margaret m'a dit, je vais jouer contre Bobby. Je lui ai répondu, Margaret, ce n'est pas un match de tennis. Il est question de changement social, de culture, de considérations fondamentales pour l'être humain. Ce n'est pas qu'un simple match de tennis. Elle m'a regardé d'un air de dire, mais oui, je lui ai dit,
so you have to win.
Il faut que tu gagnes. She says, okay, elle a répondu, d'accord. J'ai dit, super.
I'm so happy. She's into it.
J'étais vraiment contente car elle avait l'air d'y croire.
Match point. There it is. Bobby Riggs wins 6-2. 6-1. Unbelievable.
Anyway, she...
Toujours est-il qu'il l'a battue à plate couture. 6-1, 6-2. J'ai dit à Larry, mon ex-mari, maintenant, il va falloir que je joue contre lui. Donc, elle a perdu en mai. 4 jours avant Wimbledon, nous avons créé l'association de tennis féminin. Je ne voulais pas que cela affaiblisse notre position. J'ai donc dit à Larry, on annonce après Wimbledon que je vais jouer. Ça va être énorme. Et je savais quelles seraient les conséquences une fois l'annonce faite.
Bobby Riggs, ce quinquagénaire aux lunettes, n'affectionne pas le sexe dit faible, sauf devant les photographes. Quant à Billie Jean King, c'est la meilleure joueuse du monde, mais c'est aussi une championne du mouvement de libération des femmes. Bobby Riggs, 55 ans, vainqueur à Wimbledon, mais c'était en 1939. De l'autre côté, Billie Jean King, 29 ans. Elle avait pour elle sa jeunesse, mais aussi sa classe et l'expérience des matchs décisifs.
Après Wimbledon, nous avons annoncé le match et la machine s'est emballée. Tout le monde pariait, tout le monde en parlait. Tout s'est arrêté dans ce pays. Tout le monde était impliqué. Lorsque nous avons parlé à M. Perenchio, qui est un grand nom de la télévision et qui a également fait la promotion du match avec Bobby Riggs, il nous a dit que le gagnant remporterait 100 000 dollars. Ce qui était une somme considérable à l'époque. Je voulais jouer au Madison Square Garden, c'est ce que j'espérais. Mais il a choisi l'Astrodome parce que c'était plus grand, qu'il voulait accueillir plus de monde et qu'on gagnerait plus d'argent. Il y a eu 30 000 spectateurs. Nous aurions probablement pu en accueillir plus de 50
000.
L'Astrodome dégageait une ambiance extraordinaire. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue la veille pour rencontrer tout le monde. Je suis montée dans les gradins et j'ai fait semblant d'être une fan. Comment les spectateurs allaient-ils vivre cet événement? J'aime bien visualiser les choses. C'est ce que je fais toujours avant de disputer un match. Et là, j'avais peut-être 4 à 6 semaines pour me préparer. Je devais également participer à un tournoi cette semaine-là, à Houston, dans le cadre de notre tournée Virginia Slim. J'ai demandé à Gladys si je pouvais éviter de jouer cette semaine-là en raison du match avec Riggs. Elle m'a répondu que non, que je devais participer à la compétition. J'ai donc disputé 2 matchs le lundi. J'étais très douée pour faire la part des choses. Je suis très rapide dans le domaine. Si je n'avais pas été capable de le faire, je n'aurais jamais réussi, car j'étais très fatiguée. Bobby et moi avons donné quelques interviews. Je lui ai dit que j'aimais la pression. Ce qui est vrai, ça me motive. J'aime vraiment ça. Bobby a dit qu'il me battrait parce que je ne supportais pas la pression. Il a dit que les filles ne supportaient pas la pression. Toutes ces bêtises qui m'insupportent. De nombreuses femmes sont très performantes sous pression, tout comme les hommes.
Elle prétend que le fait d'être une femme n'est pas un inconvénient face à un stress émotionnel et à une pression intense. Nous verrons bien ce qu'il en est demain soir à l'Astrodome, lorsque nous serons sur le terrain.
On nous a invités, on avait toute une rangée spéciale avec les joueuses de Virginia Slim, et Rose était elle à la radio, et c'est elle qui faisait les commentaires du match.
Rosie Casals did her first announcement. Rosie Casals a fait ses premiers commentaires. Je n'ai pas voulu que ce soit Jack Cramer. Ça aurait été un fiasco, car il nous critiquait tout le temps. Donc je ne voulais pas de commentateurs qui critiqueraient quoi que ce soit. J'aime pas ça en général. J'ai donc déclaré que je ne disputerais pas le match si Jack était présent. On m'a dit, tu plaisantes? J'ai répondu, non, je suis sérieuse. D'ailleurs, Larry était allé 6 semaines avant à New York pour dire que ce n'était pas négociable. Au début, ils ne m'ont pas cru, mais ils ont fini par me croire.
30 000 spectateurs, 50 millions de téléspectateurs, les États-Unis allaient oublier le Watergate, l'espace de ce match défi, rencontre qualifiée de bataille des sexes.
Ladies and gentlemen, please welcome 1972 US Open Women's Singles Champion, Billie Jean King.
J'ai fait mon entrée dans un char égyptien. C'était du grand spectacle. Moi, j'adore tout ce qui est théâtral. Jerry Parenteau pensait que cela ne me plairait pas. Mais je lui ai dit, mais Jerry, c'est génial. Je suis montée dans le char et je lui ai dit, tu sais bien que les féministes adorent se donner en spectacle. Ça l'a fait rire et il a fini par se détendre.
Dans cette boîte, Rix avait d'ailleurs emporté un porcelet, façon de rappeler qu'il est bien le cochon numéro un du chauvinisme mâle.
Bobby m'a donné une sucette géante, Sugar Daddy, en cadeau. Il avait passé un marché avec un sponsor. Quant à moi, je lui ai offert le porcelet qui portait un mignon petit ruban autour du cou, sur lequel son nom était inscrit, nom et prénom. Robert Larrimore. Bobby, pour les intimes. C'est ainsi que le match a commencé.
Un dernier mot avant le début du match? Ah, ce match, je veux le dédier aux hommes qui pensent comme moi, que le mal est roi, le mal est supérieur. Billie Jean?
Assez parlé, place au sport.
C'était Billie Jean King et le match du siècle. Épisode 1, Virginia Slim, la révolution en marche. Merci à Billie Jean King et à son équipe, et à Françoise Dur. Extrait du film La bataille des sexes, réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris. À suivre, deuxième épisode, 3-7 pour l'histoire.
Green-eyed lady, lovely lady, strolling slowly towards the sun. Green-eyed lady, ocean lady, soothing every raging wave that comes. Green-eyed lady, passion's lady, dressed in love, she lives for life to be. Green-eyed lady, feels like I never see. Green-eyed lady, windswept lady,
the waves, the sand. Green-eyed lady, ocean lady, child of nature, friend of man. Green-eyed lady, passion lady, dressed in